Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée au nouveau visage de la concurrence. La théorie économique a placé le concept de concurrence pure et parfaite au cœur de son analyse, la rivalité entre les entreprises étant présentée comme le fondement même de l'économie de marché. Un principe aujourd'hui remis en cause par la montée en puissance des GAFAM et la volonté de l'Union européenne de faire émerger ses propres champions. La lutte contre les monopoles, inscrite dans la loi américaine depuis la fin du 19e siècle, est revenue dans le débat public aux États-Unis comme en Europe. L'occasion pour nous d'examiner en détail les théories de la concurrence et les controverses qu'elles ont nourries et d'inviter dans notre réflexion un concept rival, celui de coopération. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des rouages de la concurrence, nous accueillons aujourd'hui François Lévesque, professeur d'économie à Mines Paris Tech, auteur de l'ouvrage « Les habits neufs de la concurrence », ces entreprises qui innovent et raflent tout, paru chez Odile Jacob. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
La concurrence tient une place si considérable dans le développement du genre humain qu'on n'est jamais, ni en aucun lieu, parvenu à complètement l'étouffer. La concurrence est la grande loi, non seulement de l'humanité, mais de la nature entière, du règne végétal comme du règne animal. C'est la gloire de l'école scientifique du XIXe siècle d'avoir découvert le rôle absolument prépondérant de la concurrence qui est au monde vivant ce qu'est la gravitation au monde inorganique. Au point de vue économique, la concurrence est la mise en contact et en jeu, les unes avec les autres, des diverses libertés humaines, des diverses activités humaines qui, par une émulation que détermine l'intérêt propre, cherchent à utiliser le mieux possible leurs facultés. La concurrence est la grande force, la principale du monde économique. C'est la force à la fois impulsive et régulatrice et coordinatrice par excellence. En dehors d'elle, il n'y a que chaos, arbitraire et fantaisie, incertitude. La concurrence est un ferment social de premier ordre.
Bonjour François Lévesque.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait du traité théorique et pratique d'économie politique de l'économiste Paul Leroy Beaulieu, un ouvrage qui a été publié en 1896. Alors quelle vision de la concurrence ce texte nous offre-t-il, François Lévesque ?
Une vision sur deux plans. D'une part, il y a une vision générale de la concurrence, mais comprise comme la rivalité entre les hommes, y compris même aussi la rivalité entre les animaux. Dans la nature. Et puis, il y a le second plan qui est vraiment restreint à l'économie et qui est celui qui, évidemment, m'intéresse comme économiste, qui est celui de la concurrence entre les entreprises, qui est celui de la rivalité entre les entreprises pour acheter ou pour vendre leurs biens et leurs services.
Mmh. Est-ce qu'il n'en fait pas presque un phénomène biologique, cette concurrence ?
La concurrence entre les entreprises est assez différente de la concurrence entre les espèces, parce que d'une part, les entreprises réfléchissent, calculent, élaborent des stratégies, décident, et puis ce sont les meilleures d'entre elles qui emportent le jeu de la concurrence, qui vont avoir plus de clients, qui vont voir leurs profits augmenter. Et donc ça, c'est du raisonnement, c'est de la technique. Alors que les espèces, le singe ou l'oiseau, l'individu, il s'adapte au milieu de façon passive et c'est par la chance que certains individus et que certaines lignées se développent mieux que d'autres.
Donc pour vous, ce serait une erreur de considérer que la concurrence entre les entreprises serait une forme de darwinisme ?
Absolument. C'est une forme de rivalité parmi de très nombreuses formes de natures différentes de rivalité, y compris dans la nature.
Et alors justement, quelle est la définition de la concurrence que vous donneriez, François Lévesque, parmi les multiples définitions que l'on peut trouver ?
Bien, la définition que je donnerais, c'est vraiment la concurrence, c'est la rivalité entre entreprises. Les entreprises rivalisent les unes contre les autres. Donc c'est un phénomène de rivalité, de compétition. Mais c'est une rivalité économique et dans le sens où l'objet de cette rivalité est assez restreint. Il s'agit de vendre ou d'acheter auprès d'un certain nombre de vendeurs. vendeurs, auprès d'un certain nombre d'acheteurs, et de faire en sorte que ce soit ces produits ou ces services qui soient achetés par les consommateurs ou qu'on achète auprès des meilleurs fournisseurs.
Et ce qu'on peut préciser, François Lébec, c'est que la concurrence s'exerce sur un marché donné. C'est l'une de ses caractéristiques.
Voilà, c'est-à-dire que la concurrence est un mécanisme, c'est une force, comme la citation de Leroy Beaulieu l'a rappelé. C'est un mécanisme, mais ça s'exerce dans un marché. Et le marché, lui, c'est plutôt une institution. C'est que les marchés, ils sont organisés. Ils sont organisés, vous prenez la bourse, c'est un marché organisé. Le marché du travail est organisé. Et donc le marché, c'est, il faut penser d'abord à la dimension géographique du marché. Donc par exemple, bien deux boulangers dans un petit village vont être en concurrence. Mmh. Et évidemment, vous parliez des GAFA en introduction. Eh bien, les grandes entreprises rivalisent sur des marchés globaux, donc là, sur la planète entière. Donc, il y a une dimension géographique très importante et la concurrence s'exerce dans un marché, dans ses frontières géographiques notamment.
Et puis, on va peut-être citer deux autres caractéristiques importantes de la concurrence. C'est le fait que les entreprises rivalisent en proposant des produits différenciés et aussi le fait que l'innovation va jouer un rôle central, François Lévesque.
Voilà, c'est qu'il y a plusieurs formes de concurrence. Je pense que intuitivement, beaucoup de gens pensent à principalement, sinon exclusivement, une seule forme, qui est la concurrence par les prix. C'est cette idée que, tiens, le même produit, je l'ai 2 centimes moins cher ou 2 centimes plus cher, et donc je vais, en tant que consommateur, choisir ce produit. Et bien évidemment, les entreprises rivalisent par les prix. Mais c'est une concurrence parmi d'autres formes. Il y a la concurrence par l'innovation. Donc là, les entreprises vont investir en recherche et développement pour mettre au point un produit de meilleure qualité. Et là, le consommateur, va exercer son choix par un rapport prix-qualité. Donc, ce ne sera pas simplement le prix qui sera le déterminant de l'achat, et ce n'est pas simplement une concurrence par les prix que se livrent les entreprises. Ça peut être une concurrence par l'innovation, ou ça peut être une concurrence par la qualité des produits, et donc la différenciation des produits. Mon produit est meilleur que le vôtre, plaît mieux au consommateur, pour l'emballage, la couleur, le goût, tout ce que vous voulez.
Alors, on va voir comment s'oppose la concurrence et le monopole. Ce qu'il faut expliquer, François Lévesque, c'est que la théorie économique ne prétend pas mettre fin à tous les monopoles. Il y a des monopoles qui sont des monopoles dits naturels, comme les stations de ski, par exemple. C'est un exemple que vous donnez dans votre livre.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des mauvais monopoles et il y a les bons monopoles. Et le ski est une bonne illustration parce que vous prenez les stations de ski ou plutôt les entreprises de remontée mécanique, il est mieux pour les consommateurs qu'il y ait un seul opérateur des remontées mécaniques qui s'occupe d'exploiter le réseau et de développer le réseau de télésièges et téléphériques pour une station donnée. Plutôt que d'avoir plein d'opérateurs différents, il faudrait passer des tickets où il y aurait des problèmes de coordination et puis il y aurait une concurrence pour mettre deux télésièges au même endroit et pas ailleurs. Donc là, il y a un caractère vertueux. Les économistes parlent de monopole naturel pour indiquer simplement que c'est ce cas très exceptionnel où mieux vaut qu'il y ait une seule entreprise sur le marché. Et ici, le marché des remontées des mécaniques dans une station donnée. Donc ça, c'est le monopole naturel
vertueux. Et c'est le cas de la plupart des entreprises, des industries de réseau, comme les lignes électriques, les infrastructures de transport.
Absolument. Il est mieux pour le consommateur qu'il n'y ait qu'un seul tunnel sous la Manche, un seul opérateur de tunnel sous la Manche. C'est la même chose pour le réseau de transmission de l'électricité, les lignes haute tension que vous voyez dans les paysages. Donc il y a des circonstances, et en gros ce sont des économies d'échelle, c'est-à-dire que celui qui sert la totalité du marché, il a des coûts beaucoup plus faibles et il en fait bénéficier le consommateur. Donc le monopole naturel est vertueux. Donc il y a quelquefois, en particulier dans les industries de réseau, des bons monopoles. Et les mauvais monopoles, là, c'est la dimension la plus souvent soulignée, c'est que une entreprise, empêche d'autres entreprises de rentrer, va élever des barrières à l'entrée, va éventuellement tricher, va dominer le marché, non pas par son mérite, non pas parce que ses produits seraient meilleurs, non pas parce que ses prix seraient plus bas, mais simplement parce qu'elle empêche d'autres entreprises d'entrer par des moyens qui sont justement combattus par le droit de la concurrence.
Et pour rester sur l'exemple du ski, par exemple, ce seraient des écoles de ski qui seraient en situation de monopole. Là, pour le coup, ce serait un mauvais monopole par rapport au réseau en lui-même.
Voilà, parce que les écoles de ski, il n'y a pas une taille il n'y a pas des économies d'échelle qui feraient que l'optimum, comme disent les économistes, serait qu'il n'y ait qu'une seule école de ski par station. Au contraire, il faut, parce que les économies d'échelle, il n'y a pas besoin de coûts fixes très importants. Il n'y a pas besoin d'investissement au départ. Il vous faut un guichet, quelques moniteurs. Et maintenant, en France, il y a une rivalité, il y a une concurrence entre les écoles de ski. Et cette concurrence, eh bien, elle produit ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire une émulation, une incitation entre différents opérateurs dans des méthodes pédagogiques pour apprendre aux enfants à skier ou dans les prix qui sont offerts.
Alors vous l'avez dit, François Lévesque, il y a différentes stratégies et l'une d'entre elles, c'est de par exemple proposer du haut de gamme ou au contraire du bas de gamme pour se tailler une place sur un marché donné. C'est ainsi que Pepsi est arrivé sur le marché en vendant une boisson proche de celle que proposait Coca, mais à un prix bien inférieur.
Le grand événement qui a vraiment fait décoller Pepsi est intervenu au début des années 30, quand ils ont lancé la grande bouteille de 40 centilitres pour 5 cents. À cette époque, tous les concurrents vendaient leur soda en bouteille de 20 centilitres pour 5 cents. Donc Pepsi, qui voulait faire quelque chose de spécial pour ses clients, offrait deux fois plus pour la même somme.
Coca-Cola avait une si haute opinion de lui-même, ils étaient 6 sur 2 qu'ils dirent on s'en fiche de Pepsi et de leur stupide boisson. On va continuer à vendre notre soda dans nos petites bouteilles contre 5 cents. Et puis les pauvres se mirent à acheter du Pepsi. L'image était assez bas de gamme, mais ça a commencé à se vendre assez bien pendant la dépression. Et finalement, Coca a réalisé qu'ils avaient trouvé un redoutable concurrent.
Voilà, un redoutable concurrent qui s'impose donc à partir des années 30. Quel est aujourd'hui l'état de la concurrence entre Coca et Pepsi, François Lévesque ?
Aujourd'hui, on assiste à une sorte de guerre de tranchées parce que les positions et de Coca-Cola et de Pepsi-Cola sont dorénavant bien établies en ce qui concerne la vente de boissons carbonatées au goût de cola. Donc les parts de marché sont bien établies. Bien sûr, il y a des batailles dans la consommation croissante dans certains pays en développement. Mais il est clair aujourd'hui que Pepsi-Cola est un produit un peu moins apprécié des consommateurs. Et donc, si vous avez des consommateurs qui sont fidèles à Coca-Cola, il faudrait vraiment que Pepsi baisse encore son prix de façon très significative pour que ces consommateurs qui adorent Coca se mettent à acheter du Pepsi-Cola.
Mais qui adorent Coca essentiellement pour une question d'image de marque plus qu'une question de goût, c'est ce que montrent un certain nombre d'études.
Oui, il y a des études qui montrent qu'à l'aveugle, la plupart des consommateurs ne sont pas capables de distinguer Coca-Cola, un verre de Coca-Cola et un verre de Pepsi-Cola. Et si on leur donne un verre de Coca-Cola et ils pensent que c'est du Pepsi-Cola, eh bien ils vont trouver meilleur que le Pepsi-Cola qui est à côté, parce que il sera marqué Coca-Cola. Donc les expériences montrent aussi que à l'aveugle, que ce soit Coca-Cola ou Pepsi-Cola, la zone du plaisir dans le cerveau à l'aveugle est la même dans les deux cas. Par contre, quand vous dites au consommateur que là vous êtes en train de boire du Coca-Cola, eh bien il y a une nouvelle zone qui est spécifique, qui est excitée parce que c'est du Coca-Cola. Et donc là on voit le rôle du marketing et de la publicité qui est très en faveur d'un avantage pour Coca-Cola. Mais les deux entreprises aujourd'hui, donc elles se disputent, elles contestent leur hégémonie sur d'autres marchés. Pepsi-Cola, c'est avant tout une entreprise qui vend des céréales pour petit déjeuner, qui vend des produits alimentaires, et dans son chiffre d'affaires, le Pepsi-Cola est relativement faible. Et récemment encore, Coca-Cola a acheté Costa, qui est une entreprise rivale de Starbucks. Donc voilà, donc elles jouent sur d'autres terrains, elles sont en rivalité maintenant sur d'autres terrains que ces boissons, et y compris sur l'eau minérale.
Mais cette concurrence entre Pepsi et Coca est tout de même une concurrence historique, on l'a entendu. Est-ce que Coca a sous-estimé à l'époque, dans les années 30, la puissance de Pepsi, leur capacité à convaincre un certain nombre de consommateurs?
Ça, c'est un peu une caractéristique des entreprises lorsqu'elles dominent leur marché, c'est qu'elles peuvent avoir tendance à se reposer et à se satisfaire de leur sort et à ne pas innover de façon suffisante. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est une tarte à la crème, le mot est entré dans le vocabulaire courant, c'est celui de disruption. C'est, vous êtes sur un marché bien établi et puis tout d'un coup entre une nouvelle entreprise et vous vous attendiez pas à ce qu'elle arrive, vous vous attendiez pas à l'innovation qu'elle propose. Et donc c'est ce qu'a fait Pepsi Cola. Et je voudrais revenir sur cette idée de liberté qui est associée à la concurrence, de liberté, notamment de liberté d'entrer sur un marché. Vous avez une entreprise comme Tesla, eh bien elle n'a pas eu besoin d'une autorisation d'un État ou d'une autorité publique ou de l'autorisation des constructeurs automobiles pour entrer dans le marché de l'automobile. Vous avez un entrepreneur qui a voulu entrer dans l'industrie automobile et fabriquer des voitures et il le peut. Donc c'est ça, la liberté de commerce et la liberté d'entreprendre est très associée à la concurrence.
Et il y a aussi des innovations qui peuvent être des échecs. En l'occurrence, c'est l'exemple du New Coke qui avait été lancé par Coca-Cola en 1985 et qui n'a pas du tout fonctionné.
Pas du tout. Alors là, c'est l'échec, la défaillance complète. Je crois que sur France Culture, il y a un podcast sur les faits. C'est un échec spectaculaire.
Super fail, par Gilles Merner.
Voilà. Pourquoi ça a été? Eh bien, parce que l'entreprise croyait qu'il était temps de remplacer le Coca-Cola classique par New Coke, notamment donc par une combinaison différente, un peu moins de sucre, etc.
Et les consommateurs, une bronca des consommateurs.
Voilà, les consommateurs ont hurlé et finalement. Le Classic Coke est resté. Le Classic Coke ne s'appelle même plus Classic Coke, il s'appelle Coke. Et le New Coke a disparu de la circulation.
Alors, pour vous, François Lévesque, nous vivons à l'heure de l'hyper-différenciation. Pour chaque produit de consommation, il existe une multitude de choix. Mais là où la concurrence semble d'autant moins parfaite, pour reprendre cette expression de la concurrence pure et parfaite de la théorie économique, d'autant moins parfaite donc que parfois, des produits qui semblent concurrents appartiennent en réalité au même groupe.
Alors, ce modèle de concurrence, les économistes l'appellent la concurrence monopolistique. Donc, c'est cette idée. Et donc, c'est un terme qui peut paraître compliqué, mais qui est bien parlant. Pourquoi ? C'est quand vous avez deux produits, donc par exemple Coca et Pepsi-Cola, donc deux variantes d'un même produit, eh bien, il y a à la fois une concurrence. Les consommateurs peuvent passer de l'un à l'autre si le prix de l'un... évolue par rapport à l'autre, mais il y a quand même aussi certains consommateurs qui ont une préférence très marquée, soit pour Pepsi, soit pour Coca-Cola. Et donc il y a à la fois l'idée de monopole, les consommateurs, ils ont une telle préférence qu'il faudrait vraiment leur proposer un prix beaucoup plus bas du produit concurrent pour qu'ils changent leur consommation. Et donc il y a à la fois de la concurrence et un caractère de monopole. Et on est dans un monde aujourd'hui, effectivement, d'hyper-différenciation. Vous allez au supermarché, c'est très difficile de trouver un produit avec une seule variante. Même le sucre, il y a plein d'emballages possibles, il y a plein de formes possibles, même les bananes. Enfin, peut-être les bananes sont une exception, mais même le sel. Et si vous voulez de la nourriture pour votre chat ou pour votre chien, il y a plein de variantes.
Mais alors, la question qui se pose, c'est est-ce que cette concurrence s'amenuise ou est-ce que, au contraire, elle grandit et on va le voir tout au long de cette émission et différentes réponses peuvent être apportées à cette question. Mais ce que l'on constate tout de même, François Lévesque, c'est que la grande majorité des exportations américaines sont le fait d'un petit nombre d'entreprises qui possèdent de nombreuses marques. Est-ce que ça c'est le signe qu'il y a une plus grande concentration et donc peut-être une moindre concurrence ?
Alors effectivement, il y a une partie de la concurrence invisible du consommateur qui est liée au fait que des grandes entreprises possède un nombre incroyable de marques et le consommateur n'a pas idée que c'est la même entreprise qui possède les mêmes marques. Donc récemment, vous avez une entreprise finlandaise absolument inconnue du grand public qui s'appelle Amersport, qui fait plus du tiers du marché mondial de ski. On parlait du ski tout à l'heure. Donc qui produit les planches de ski. Eh bien, cette entreprise, elle a comme marque Arc'teryx dans les vêtements de montagne, elle a Salomon, elle a Dynastar, elle a toute une série de marques. Et quand vous allez acheter votre paire de ski, vous pensez que presque, c'est des entreprises différentes. Et en fait, c'est la même entreprise qui gère un très grand portefeuille de marques. Et c'est une entreprise chinoise qui vient d'acquérir d'ailleurs cette entreprise finlandaise. Donc la nouvelle entreprise aura encore un plus grand nombre de marques. Donc ça c'est un côté un peu invisible.
Et ça présente des avantages pour les consommateurs ?
Alors pour les consommateurs, ça présente et un avantage et un désavantage. Le désavantage, c'est que quand vous avez des produits qui sont différenciés, eh bien, la concurrence, ça amenuise. Pourquoi ? Les économistes vont parler de substituabilité. C'est-à-dire que la substituabilité entre les produits, elle est plus faible parce que les gens préfèrent Coca à Pepsi-Cola ou préfèrent Dynastar à Rossignol ou Orange à Free. Donc, il y a une réduction de la concurrence du fait de la différenciation. Et ça, c'est pas bon pour les consommateurs parce qu'ils sont beaucoup plus captifs, parce que l'attachement à la marque se paye, etc. Donc ça, c'est le désavantage de la différenciation. L'avantage de la différenciation, c'est que plus il y a de marques et de produits avec des variantes, eh bien, plus il y a de chances que vous trouviez le produit qui vous convienne, le produit que vous préférez. Si vous préférez des céréales pour petit déjeuner sans trop de sucre, très craquantes, avec des vrais fruits, eh bien, vous trouverez parmi les milliers de variantes de céréales pour petit déjeuner, ou en tout cas la centaine de variantes, vous trouverez la variante qui sera la plus proche de votre produit idéal.
Justement, toute la question étant, est-ce que ça répond à un besoin ou est-ce que ça en crée un nouveau ? C'est toutes les interrogations qui peuvent tourner autour de la question de la consommation. Mais il y a un autre exemple intéressant que vous mobilisez dans votre livre, François Lévesque, c'est celui du rasoir. C'est un objet économique qui est particulièrement étudié, dites-vous. Alors, pour quelle raison ?
Il est étudié parce qu'un rasoir, ça a un manche et des lames, donc le rasoir mécanique. Et donc, il y a des questions de compatibilité. Est-ce que les entreprises vont vendre des lames qui s'adaptent à plusieurs types de manches, ou des entreprises qui vendent des manches qui s'adaptent à plusieurs types de lames? Et où est-ce que l'intérêt de l'entreprise, c'est de vendre des lames et des manches qui soient spécifiques, ce qui est le cas en fait aujourd'hui, ce qui est le choix stratégique qui a été fait.
La stratégie Gillette, c'était d'offrir des manches à des Américains au moment de leurs 18 ans pour ensuite pouvoir vendre des lames.
Absolument. Et donc maintenant, vous avez si vous devez aller chercher des lames de rasoir au supermarché, c'est bien compliqué quand c'est pas vous l'utilisateur. Vous allez chercher pour votre partenaire des lames de rasoir, eh bien, il y a quand même une chance sur deux que vous rentriez à la maison et que les lames ne correspondent pas aux manches. Pourquoi ? Parce que Gillette ou Wilkinson ou Chic, eh bien, ont rendu leurs produits incompatibles. C'est un peu comme la cafetière Nespresso et les dosettes Nespresso.
Alors justement, vous parlez de la cafette Nespresso. Je voudrais que on entende Benoît Heilbrun, qui est professeur de marketing à l'ESCP Europe.
Bien, l'idée de Nespresso, c'est d'adopter un modèle économique qui est assez proche de celui qu'on va trouver dans d'autres marchés comme la console de jeu ou le rasoir. Chez Gillette, on va pratiquement vous offrir le manche, et puis on va par contre faire une très très grosse marge sur les lames. Ben, c'est un petit peu l'idée chez Nespresso, puisque on va vous vendre une machine et puis après on va faire l'essentiel de la marge sur la vente de capsules.
Ce qu'il faut comprendre, François Lévesque, c'est que Gillette a été pionnier et ce modèle économique a été repris ensuite par de nombreuses entreprises comme Nespresso ou son concurrent Senseo.
Voilà, donc là c'est l'idée que les consommateurs, ils n'utilisent pas des lames de rasoir sans manches, ils n'utilisent pas de manches sans lames de rasoir, ils n'utilisent pas de dosettes, ils n'ont pas de cafetière. Voilà. Et donc, on parlait des skis tout à l'heure, ils n'achètent pas des planches de ski sans fixation, ou ils n'achètent pas des fixations sans planches de ski. Donc, le consommateur, c'est l'objet système qui l'intéresse. Et donc, en termes de modèle d'affaires, soit vous vendez cher vos dosettes et pas cher, même éventuellement vous subventionnez les cafetières, soit vous vendez vos skis, vos planches plutôt moins chères, et vous faites surtout vos marges sur les fixations. Donc c'est vraiment cette idée-là que, de toute façon, le consommateur, il fait la somme des deux produits.
Mais est-ce que ce n'est pas un modèle qui est menacé justement par l'apparition, en l'occurrence, de capsules qui sont compatibles avec les machines Nespresso et qui ne sont pas de la marque Nespresso?
Eh bien voilà, c'est pour ça que les économistes, dans les manuels et dans leurs modèles, s'amusent beaucoup sur ce cas du rasoir ou de la machine expresso. parce que là, il y a la question de est-ce qu'il est, dans quelle mesure l'entreprise a intérêt de produire de la compatibilité ou de faire que son système soit fermé, incompatible. On a la même chose hein, sur les téléphones. Apple a un système fermé entre ses applications et son système d'exploitation. Donc, est-ce qu'il faut faire un système fermé ou un système ouvert? Avantages et inconvénients. Dans quelle situation une stratégie est meilleure que l'autre? Et puis, il y a cette question du prix. Est-ce que je fais payer beaucoup mon système d'exploitation ou les applications?
Et pour se protéger, on peut déposer un brevet. C'est ce qu'on fait un certain nombre d'entreprises.
Voilà, c'est-à-dire que après, si vous optez pour le modèle fermé, il faut le tenir, le modèle fermé. Il faut le tenir, c'est-à-dire qu'il faut empêcher d'autres d'entrer sur les capsules ou d'entrer sur les cafetières ou d'entrer sur les systèmes d'exploitation ou sur les applications. Et donc là, soit il y a des moyens légaux, donc la propriété intellectuelle qui rémunère les efforts de recherche et développement et d'innovation, soit des moyens qui pourraient être considérés comme une infraction au droit de la concurrence. Mmh. Et à ce moment-là, le droit de la concurrence trouvera que c'est pas que l'entreprise a une position de monopole, par exemple sur les lames, et qu'elle utilise sa position de monopole sur les lames pour obtenir une position de monopole sur un autre marché que celui des manches, par exemple.
Et en l'occurrence, comment expliquer l'apparition justement de ces capsules concurrentes?
Eh bien, il y a eu une bataille en termes de brevets. C'est-à-dire que le premier concurrent qui a voulu rivaliser et contester la position de Nestlé, donc de Nespresso, eh bien, il a, du jour au lendemain, quand il a passé la tête comme concurrent, eh bien, Nestlé a porté plainte pour infraction à sa propriété intellectuelle. Et donc là, vous entrez sur des années de procédure. Donc si le nouvel entrant est plutôt de petite taille et si l'opérateur dominant est de grande taille, a des moyens, vous avez quand même une asymétrie dans les capacités de se défendre.
Mais en l'occurrence, Nestlé a perdu. Puisque
et là, Nestlé a perdu, mais... des fois, ces batailles juridiques peuvent faire que votre nouvel entrant, finalement, disparaît avant d'entrer parce qu'il a perdu les batailles sur les brevets ou d'autres.
Et Gillette a également été fragilisé par l'arrivée d'une entreprise qui a commencé aussi à offrir un rasoir et à proposer des abonnements permettant de recevoir les lames directement à son domicile. Donc Gillette a dû réagir à l'arrivée de ce concurrent.
Donc voilà, ça c'est un autre exemple de disruption par un nouvel entrant. Donc on a un monde très plan-plan, excusez-moi l'expression, entre d'un côté Gillette et de l'autre côté Wilkinson. Donc c'est un peu comme le duopole Coca-Cola, Pepsi-Cola, deux entreprises qui dominent le monde du rasoir mécanique.
Et qui s'étaient reposées sur leur laurier.
Mais avec une innovation très particulière, c'est-à-dire qu'elles se battaient, elles continuaient de rivaliser, mais elles rivalisaient sur le nombre de lames. C'était une espèce de course à la technologie un peu trop grande.
L'innovation n'est pas venue du côté des technologies, c'est
voilà.
Ça qui est intéressant.
Et donc là, l'innovation, c'est par le bas du marché, une disruption par le bas du marché. Personne ne voyait le coup venir, en tout cas, ni Gillette, ni Wilkinson. C'est un Californien, donc l'exemple, c'est vraiment l'image d'Épinal, Michael Dubin, qui a cette idée de combiner le modèle d'Amazon et de Netflix pour les rasoirs électriques, pour les rasoirs mécaniques. Alors ça donne quoi? Eh bien, le modèle d'Amazon, c'est d'envoyer à des abonnés, à des consommateurs chaque mois par le courrier, eh bien, des lames de rasoir de rechange. Et puis, le modèle Netflix, c'est l'abonnement. C'est vous abonner pour recevoir 4 lames de rechange par mois. Et ce type a connu un succès absolument considérable.
Avec l'idée de s'intéresser, enfin, de se tourner comme cible vers les millennials, essentiellement.
Oui, les millennials. Et puis ceux qui en ont marre d'acheter leur lame de rasoir mécanique à des prix absolument stratosphériques. Mmh. Si vous allez en supermarché, les prix sont tellement élevés que les lames de rasoir sont mises sous blister parce que évidemment plus c'est cher, plus ça peut être volé. Et donc là, il est arrivé en proposant des prix 3 fois plus faibles.
Et face à cette concurrence, quelle a été la réaction de Gillette?
Et bien, la réaction de Gillette, il y a eu effectivement une plainte pour atteinte à la propriété intellectuelle, mais finalement elle n'a pas prospéré. Et puis finalement, cet entrepreneur qui a pris en quelques années plus de 10% du marché américain de la lame de rasoir pour rasoir mécanique, eh bien, a été racheté par Unilever, donc un autre entreprise géante, mais qui n'était pas dans le domaine du rasoir mécanique. Et donc maintenant, on a Gillette, Wilkinson et Unilever.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Écoutez Competition des Dodos sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, et notre discussion sur les nouveaux visages de la concurrence se poursuit en compagnie de François Lévesque. Alors quels sont les liens entre concurrence et innovation? Écoutons à ce sujet l'économiste Philippe Aguillon.
La concurrence a un effet positif parce que la concurrence, en fait, on innove pour échapper à la concurrence. Donc là, on sait que la concurrence a un effet globalement bon pour la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger les innovateurs en termes des rentes de monopole qu'ils ont de manière temporaire quand ils ont un produit meilleur que les autres. Mais il faut protéger les droits de propriété intellectuelle, mais il faut quand même avoir une politique de la concurrence. Parce que, en fait, la combinaison de la politique de la concurrence et de la politique de brevet est très bonne, parce qu'on innove pour échapper à la concurrence, mais si on savait qu'on serait tout de suite imité, ça serait le cas s'il n'y avait pas de protection de droits de propriété, il n'y aurait pas d'incitation à innover pour échapper à la concurrence. Donc il faut ces deux outils-là. Donc la concurrence est très importante, puis la concurrence est profondément importante, puisque si on n'a pas de concurrence, il n'y a pas de création et destruction d'entreprises ou d'activités qui sont vraiment l'essence même du processus d'innovation.
Il faut donc une politique de concurrence qui soit doublée d'une politique de propriété intellectuelle. François Lévesque, vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, il faut les deux. Il faut les deux. Et ce que disait Philippe Aguillon est très important sur deux plans. Le premier plan, c'est que on observe que les entreprises cherchent à échapper à la concurrence par l'innovation. Et donc là, ça rappelle qu'il y a vraiment l'idée d'une concurrence dynamique. Et la concurrence dynamique, c'est la concurrence par l'innovation. À l'opposé de la concurrence statique, qui a longtemps été le modèle principal des économistes, qui était lié à une théorie de la formation du prix et à une situation d'équilibre qui faisait que le prix était égal au coût marginal. Donc cette situation, la concurrence, il faut vraiment la comprendre aujourd'hui comme un phénomène dynamique, et la concurrence par l'innovation donne cette substance. Ça, c'est le premier plan.
Quelle est cette concurrence statique dont vous parlez? En quoi est-ce qu'elle consistait exactement?
Bah, la concurrence statique, c'est une concurrence par les prix. C'est cette idée, vous parliez de concurrence parfaite, le modèle de la concurrence parfaite en théorie économique. Vous avez un grand nombre d'acheteurs, un grand nombre de vendeurs, ils disposent des mêmes informations. Eh bien, c'est l'équilibre de marché fait qu'à ce moment-là, on a le prix qui est égal au coût marginal. Mais on est dans un monde qui n'existe pas ou très peu, puisque en fait, les entreprises ne peuvent pas, dans ce monde de concurrence parfaite, les entreprises ne peuvent pas agir sur les prix. Et elles ne font pas non plus de recherche, elles ne font pas non plus de publicité.
Donc mais c'est un modèle théorique qui correspond à un idéal qui n'existe pas dans la réalité.
Alors, qui correspond à un idéal dans le sens où c'est un modèle idéal typique, pour être dans le jargon des économistes, mais pas idéal quand même sur le plan de la société, parce que la concurrence parfaite, eh bien, elle signifie qu'il n'y a pas d'innovation, qu'il n'y a pas de progrès technique, il n'y a pas de publicité qui sert quand même à informer les consommateurs sur les produits. Et on est dans un monde, dans concurrence parfaite, où il n'y a pas cette différenciation des produits. Et donc, dans un monde de concurrence parfaite, vous n'avez qu'un seul modèle de voiture, vous n'avez qu'un seul modèle de téléphone mobile, vous n'avez qu'une seule céréale pour petit déjeuner. Et donc, on est dans un monde où les préférences des consommateurs ne sont pas vraiment satisfaites. Donc, c'est un modèle théorique et qui n'est même pas satisfaisant pour la société, parce qu'il n'y aurait pas ces incitations et ces innovations.
Et pourtant, ce que dit la théorie économique néoclassique, qui a été donc élaborée à partir de la fin du 19e siècle, c'est que la concurrence pure et parfaite, c'est ce qui permet de créer la plus grande richesse possible. Mais c'est une vision qui a été beaucoup contestée depuis.
Voilà, qui a été contestée et surtout qui rend les choses compliquées. C'est-à-dire que vous avez donc cette interrogation des économistes, théoriciens, qui est comment expliquer la formation des prix et quel est le lien entre le prix et le coût. Et donc ça vous donne le modèle de concurrence parfaite et puis un truc qui s'appelle la théorie de l'équilibre général, je vous en passe. Et puis vous avez le phénomène concret en fait de la concurrence, qui est cette rivalité très dynamique entre les entreprises. Et là où les économistes rendent les choses un peu confuses, c'est que ce que j'esquissais tout à l'heure, j'indiquais que la concurrence parfaite, c'est en fait un modèle imparfait. Donc là faire comprendre aux non-économistes que les économistes parlent de concurrence parfaite, mais qu'en fait c'est un modèle imparfait parce qu'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de progrès technique, donc ça n'aide pas trop à comprendre. Et les économistes du coup appellent les modèles de concurrence imparfaite la vraie concurrence, celle qu'on observe tous les jours. Donc il faut faire attention ici, la perfection et l'imperfection. Les termes employés par les économistes sont pas du tout dans le sens commun de c'est vers quoi il faut le rétendre.
On peut aussi parler d'une concurrence juste et équitable, comme c'est inscrit par exemple dans le traité de Rome.
Voilà, et donc là, on met l'accent sur le fait qu'il y a un cadre qui protège la concurrence, donc il y a un droit de la concurrence, il y a le droit de la liberté commerciale, et donc on est dans un cadre où, bien, si des entreprises veulent entrer dans un marché, elles entrent dans un marché, si elles veulent en sortir, elles en sortent, si moi je veux acheter à X et pas à Y, et ben j'achète à X. Si je veux vendre à Z et pas à T, je vends à Z et pas à T. Donc c'est la liberté de commerce, le droit de protection de la concurrence. Donc c'est tout un ensemble de mécanismes, de règles du jeu qui assurent que cette concurrence puisse prospérer, se développer. Parce que, et c'est le second plan qui était souligné par Philippe Aguillon, la concurrence, globalement, elle apporte de la richesse. C'est un mécanisme qui est favorable à la création de richesses. La concurrence, c'est un stimuli, c'est une incitation. L'entreprise, elle est soumise à la concurrence, donc elle va chercher à améliorer son produit, elle va réduire ses coûts, et donc il va y avoir des gains de productivité. S'il y a des gains de productivité, c'est bon pour l'économie et la croissance économique.
Toute la question étant comment on redistribue ces gains de productivité.
Absolument, donc là, la question de la redistribution est absolument clé.
Et alors, est-ce qu'il y a des cas, François Lévesque, où la concurrence peut être défavorable justement aux consommateurs?
Il y a des cas, oui, ils sont relativement exceptionnels. C'est un peu le pendant du monopole naturel. Donc le monopole naturel, c'est une exception dans le sens où c'est cette situation relativement rare où il est même dans l'intérêt des consommateurs qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui serve la totalité de la demande. Eh bien, Une autre exception que certains économistes ont appelée la concurrence destructrice, c'est que dans certains cas, eh bien, cette concurrence conduit au chaos. Alors, donnons tout de suite un cas concret. Les Anglais, à un moment, en pleine période Thatcher, d'ouverture à la concurrence, de libéralisation, eh bien, ils ont introduit la concurrence dans les lignes d'autobus et d'autocars. Eh bien, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, deux compagnies sur le même circuit, eh bien, vous voyez les bus se doubler pour arriver le premier à la station où il y avait des gens et remplir, évidemment, son bus. Et le deuxième bus qui passait 30 secondes après, il n'avait plus de passagers. Bon, donc il y a un certain nombre de circonstances, notamment liées à des capacités. On trouve ça dans le transport maritime, de lignes régulières, où la concurrence dans le marché serait défavorable, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas introduire une concurrence pour le marché. Et donc, par exemple, sur les autocars ou les autobus ou le transport urbain, vous introduisez de la concurrence pour le marché à travers les appels d'offres. Eh bien, telle entreprise, pendant 10 ans, elle fournira les services de transport urbain et vous remettrez en concurrence cette exclusivité dans 10 ans. Donc ça, c'est la concurrence pour le marché. Et donc, effectivement, dans certains cas, la concurrence peut être destructrice. La concurrence dans le marché, peut-être même à Paris, vous voyez plein de trottinettes. Il y a des dizaines d'entreprises qui proposent leurs trottinettes.
Est-ce défavorable pour les consommateurs, selon vous?
Pour les consommateurs, d'une part, il y a toute une série de règles du jeu qui ne sont pas respectées, ou en tout cas, il est difficile de faire des règles du jeu. C'est-à-dire que là, la rivalité, elle est tellement intense entre vos 10 opérateurs de trottinettes que vous n'avez pas les mêmes applications. Si vous faut 10 applications, donc ça serait peut-être mieux qu'il n'y ait que 2 opérateurs de trottinettes, parce que vous n'avez pas besoin de 10 applications sur votre téléphone lorsque la trottinette qui est juste en bas de chez vous, eh bien, elle correspond à tel opérateur plutôt qu'un autre. C'est pas très bon non plus en termes d'usage de l'espace public, etc.
Donc ça représente les dérives possibles, les excès de la concurrence, voilà, selon vous.
Voilà, dans certaines circonstances, vous allez avoir trop de concurrents finalement. Et donc là, dans ces circonstances-là, la concurrence peut éventuellement être régulée ou, en tout cas, elle n'est pas systématiquement favorable aux consommateurs.
Et alors, ce qui est intéressant, François Lévesque, c'est que la concurrence s'est transformée. C'est l'objet de votre livre, Les habits neufs de la concurrence. Et elle s'est transformée en premier lieu, nous dites-vous, sous l'effet de l'élargissement des marchés et de la libéralisation des marchés. C'est la mondialisation qui a permis cette évolution de la concurrence.
Oui, c'est-à-dire que la force première, plus intuitive, plus évidente et peut-être même principale de la concurrence dans son intensification, c'est la diminution des coûts de transport et la facilité de transport. Si vous avez le coût de transport diminuant, eh bien l'entreprise A, qui n'était pas en concurrence avec B, parce que B était à 100 km, donc si vous rajoutiez le coût de transport, ça ne marchait pas, eh bien le coût de transport diminuant, A et B vont être en concurrence. Et cette diminution des coûts de transport, c'est pas simplement la globalisation dans le sens où, bien évidemment, c'est les coûts du transport maritime, le coût de transport par avion, etc. Mais même si vous prenez le transport local par camion ou les automobilistes par voiture, eh bien, les supermarchés sont plus en concurrence aujourd'hui qu'il y a 20 ans parce que les gens font des déplacements, sont prêts à se déplacer un peu plus longtemps pour aller au supermarché parce que le coût a diminué. Donc il y a eu un élargissement du marché géographique, y compris sur des marchés locaux qui sont un peu moins locaux, jusque bien évidemment à l'extrême qui est le marché globalisé où il y a un seul marché pour qui est la totalité de la planète.
Et puis il y a aussi des innovations déterminantes qui ont fait évoluer la concurrence et notamment ces innovations majeures qu'ont été les micro-ordinateurs, Internet, les smartphones. En quoi est-ce qu'ils ont fait évoluer la concurrence, François Lévesque?
Eh bien, les économistes de l'innovation parlent d'innovations génériques. C'est des innovations donc comme l'électricité. l'électricité, par exemple, ou la machine à vapeur, eh bien, dans l'histoire, là, le smartphone ou le PC ou l'informatique, en fait, vous le retrouvez. Ce sont des innovations qui peuvent être à l'origine d'autres innovations. C'est des innovations qui permettent une flopée, une mêlée, un nombre incroyable de nouvelles innovations.
Ce sont les grappes d'innovation de Schumpeter.
Voilà, des grappes d'innovation, et donc qui va réduire même le coût d'innovation, qui va améliorer l'innovation. Aujourd'hui, si vous voulez faire une application, eh bien, vous êtes, si vous avez une idée de génie comme start-upper, vous allez pouvoir aller sur le cloud pour louer des capacités que vous n'auriez pas pu avant louer parce que vous aurait fallu un nombre astronomique d'ordinateurs. Vous pouvez vous utiliser le smartphone, vous mettez en point une nouvelle application. Bah, dans le smartphone, il y a un système d'exploitation, il y a une application GPS. Donc, vous allez déjà utiliser. Donc, c'est le monde c'est cette idée d'innovation complémentaire aussi.
Et alors, on se demandait, François Lévesque, si la concurrence s'intensifiait ou au contraire, si elle s'essoufflait. En tout cas, ce que l'on constate aux États-Unis, c'est que le nombre de nouveaux entrants sur le marché, le nombre de nouvelles entreprises a baissé et que ce phénomène de concentration semble toucher finalement tous les secteurs.
Oui, alors, pour les États-Unis, il semble à peu près clair. On est à peu près certain, ou en tout cas, il semble raisonnable de penser, parce que c'est très probable que la concurrence s'érode aux États-Unis. Alors, pourquoi on est capable d'avancer que c'est sans doute en train de ce qui se passe aux États-Unis, donc une érosion de la concurrence, une diminution de l'intensité de la concurrence, parce que tous les voyants, tous les indicateurs de la concurrence convergent vers cette idée-là. Une concentration de plus en plus grande, vous l'avez signalé, moins d'entrées, des profits aussi de plus en plus élevés, et puis des calculs qui estiment le pouvoir de marché des entreprises, qui a un rapport entre le coût marginal et le prix, et des estimations qui montrent que le pouvoir de marché des entreprises américaines augmente. Donc là, il y a vraiment un faisceau de présomptions de plus en plus solides, comme quoi la concurrence s'essouffle aux États-Unis.
Et comment on peut l'expliquer? Par un relâchement des lois antitrust?
Sans doute marginalement, mais beaucoup plus par un mouvement de barrière à l'entrée, d'ordre technologique, d'effet d'échelle et d'effet d'envergure. Donc il y a toute la technologie en fait. La technologie, elle fait aujourd'hui que les barrières à l'entrée sont très très hautes pour entrer dans un certain nombre de secteurs. Les compétences en matière de management. Et puis il y a ce phénomène là qui interroge vraiment les économistes aujourd'hui, qui est celui des superstars. C'est cette idée que maintenant, un petit avantage concurrentiel peut vous donner un énorme avantage commercial. Donc, une petite différence avec un concurrent, à un moment donné, eh bien, va se traduire quelques années plus tard par un immense avantage commercial. Et ça, c'est notamment l'économie des plateformes.
Alors, justement, vous avez travaillé en particulier sur le cas d'Amazon. Selon vous, comment le géant du numérique a-t-il réussi à tuer la concurrence?
Bon, d'abord, il n'a pas tué encore la concurrence. Il y a une concurrence très forte entre Walmart, qui est le grand supermarché, la grande chaîne de supermarchés américaine, et Amazon.
Il a tué ses concurrents les plus faibles, disons.
Oui, c'est-à-dire qu'il élimine des concurrents. Mais attention, le fait qu'une entreprise élimine des concurrents moins efficaces, c'est vertueux pour un économiste. Donc, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les salariés des entreprises les moins efficaces, puisqu'elles sont éliminées et évidemment les salariés perdent leur job. Mais ça, c'est aussi une des vertus, même si elle crée des perdants. C'est une vertu de la concurrence d'éliminer des entreprises, de sortir du marché des entreprises qui sont moins efficaces, qui produisent plus cher, qui ont des produits de moins de qualité que d'autres. Et donc, Amazon est en train, effectivement, d'éliminer un grand nombre de concurrents, semble-t-il pour l'instant par le mérite et aussi par le nerf de la guerre qui est de pouvoir emprunter, parce qu'Amazon perd systématiquement de l'argent, au moins sur sa partie livraison place de marché. Donc aujourd'hui, sauf en Allemagne, mais c'est en train de bouger, les autorités de la concurrence ne considèrent pas qu'Amazon aurait obtenu sa position dominante.
Il n'y aurait pas d'abus de position dominante, a priori.
Ayant une infraction, de façon illicite au regard du droit de la concurrence. Donc, ça serait plutôt une concurrence par le mérite, mais c'est en train de bouger. Est-ce que Amazon n'utilise pas ses données de place de marché, de concurrents, parce qu'elle a des données sur les ventes des concurrents, puisque c'est une grande place de marché. Est-ce qu'elle les utilise pas pour privilégier ses propres produits? Et donc, il commence à y avoir des interrogations sérieuses sur la façon dont éventuellement Amazon abuserait de sa position dominante.
Il y a de plus en plus de débats aux États-Unis, ou plutôt peut-être un retour des débats autour de la question de démanteler les géants du numérique. C'est en tout cas une proposition d'Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate, qui s'est déjà portée candidate à la présidentielle américaine de 2020. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats actuellement aux États-Unis sur la volonté peut-être de démanteler ces géants?
Alors, démanteler, ça sera sans doute pas très simple, mais en tout cas, il y a plusieurs problèmes auxquels les Américains doivent faire face. D'une part, et les Européens dans une certaine mesure aussi, premier problème qui est celui des données, comment ces entreprises utilisent nos données et comment elles les utilisent aussi pour obtenir des avantages vis-à-vis de concurrents. Le deuxième problème, c'est évidemment la puissance, le pouvoir de ces entreprises.
Est-ce que les États peuvent légiférer face à une telle puissance?
Ils pourraient. En tout cas, il faut trouver les bons...
C'est une question qui se pose de plus en plus.
Voilà, la question se pose. Il y a des réflexions du fait de ce pouvoir acquis par ces entreprises. C'est des entreprises d'une taille absolument considérable qui joue un rôle dans la vie quotidienne d'un nombre considérable de consommateurs. Donc, il y a cette idée de pouvoir et de puissance des entreprises. Et donc, il y a eu quand même un laxisme des autorités de la concurrence américaine, notamment en matière d'autorisation de fusion et d'acquisition par le passé. Et donc, beaucoup d'interrogations sur est-ce que le contrôle des concentrations ne doit pas être plus strict aux États-Unis.
Vous croyez à une révision de la législation antitrust aux États-Unis? Pour vous, ce serait nécessaire, du moins?
Je pense qu'à la marge, il va y avoir des évolutions dans l'application du droit de la concurrence aux États-Unis et de façon sans doute à un niveau d'exigence plus important, un niveau de sévérité plus grand. On tendrait dans cette direction.
On verra que ce sont des débats qui existent également en Europe. On en parlera dans notre émission mercredi. Mais alors, on arrive presque au terme de cette émission. François Lévesque, je voudrais vous demander si jamais la concurrence s'érode effectivement. Alors, peut-être que ça dépend de quoi on parle, mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les salariés?
C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs parce que, et donc là, vous touchez du doigt la question de la redistribution, les effets redistributifs de la concurrence. Premier effet redistributif, plus il y a de concurrence, plus c'est à l'avantage des consommateurs et moins c'est à l'avantage des actionnaires. Plus il y a de monopole, plus c'est à l'avantage des actionnaires parce que les profits sont élevés, et moins c'est à l'avantage des consommateurs parce qu'ils achètent leurs produits plus chers. Et donc, si la concurrence s'érode, c'est bon pour les hauts revenus, je simplifie, et mauvais pour les bas revenus. Les hauts revenus, comme les bas revenus, consomment, donc là, ils sont désavantagés par le monopole, mais les hauts revenus ont des placements financiers, donc d'une certaine façon, ils bénéficient des plus grands profits quand la concurrence s'érode. Et pour les salariés, ces entreprises qui ont des positions dominantes, elles peuvent avoir une position dominante sur le marché du travail. Et une entreprise qui a une position dominante sur le marché du travail, donc la caricature, c'est si dans une ville, vous avez une seule entreprise qui embauche, là, elle a un monopsone. C'est l'équivalent du monopole du côté de l'achat, et ici du côté de l'emploi. Et bien évidemment, l'effet, c'est de baisser les salaires. Et donc, c'est mauvais quand une entreprise détient une position dominante sur le marché du travail. Eh bien, c'est mauvais pour les salariés.
Et donc, à l'avenir, vous pensez que la concurrence est amenée plutôt à s'intensifier ou plutôt à reculer?
Ah, c'est la question à $1 million. Je ne sais pas y répondre. Il y a deux controverses. Évidemment, Schumpeter, que vous avez cité, disait que les monopoles sont temporaires, c'est-à-dire que, Nokia s'est fait chasser par Apple, et il y a des entreprises qui disparaissent, et peut-être que Amazon disparaîtrait, et Google aussi. Et puis, il y a d'autres qui prétendent que la concurrence tue la concurrence. Et donc, c'est cette idée que ces entreprises globales qui dominent le monde entier, ça va être difficile de contester leur position dominante dans le futur.
Thank you. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un livre intitulé « Perdre la Terre » et qui explique comment l'impuissance de la communauté internationale en matière climatique a été planifiée, organisée.
Absolument. Alors que se tient en ce moment à Metz une réunion du G7 Environnement, il était intéressant de revenir sur cet ouvrage de l'essayiste américain Nathaniel Rich qui rappelle la fois où l'humanité aurait pu se sauver avant de reculer. L'auteur explique ainsi qu'au tournant des années 80 aux États-Unis, une majorité de l'opinion est favorable à la mise en œuvre de politiques de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Une conscience et un intérêt de la société américaine pour les questions climatiques que l'auteur attribue au travail et à l'engagement du géophysicien Gordon MacDonald et à l'écologiste Ralph Pomerance, qui ensemble ont bataillé sans relâche pour que les États-Unis prennent la tête de la croisade contre le dérèglement climatique.
Et dans un premier temps, ça semble fonctionner, même les dirigeants américains s'engagent publiquement pour cette cause.
Mais oui, une majorité d'élus du Congrès républicain comme démocrates sont alors convaincus de la nécessité d'agir. Pas moins de 32 projets de loi relatifs à la question climatique sont ainsi déposés pour la seule année 1988. Même à la Maison-Blanche, George Bush Senior, tout juste élu, promet de jouer un rôle moteur dans la lutte contre l'effet de serre. Dans ce moment d'unanimisme général, les géants du pétrole eux-mêmes reconnaissent leur rôle dans les énormes quantités de dioxyde de carbone relâchées dans l'atmosphère et préviennent, je cite, qu'ils seront prêts à s'engager dans une transition raisonnable et progressive vers les énergies renouvelables.
Mais Nathaniel Rich raconte surtout comment ses espoirs se sont effondrés le 6 novembre 1989.
Oui, ce jour-là se tient à Nordwijk, aux Pays-Bas, le premier grand sommet sur le réchauffement climatique. Plus de 60 pays doivent se prononcer sur la politique à mener pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et une proposition semble faire consensus, celle de geler les émissions de carbone pour les 10 ans à venir. Mais cet objectif est torpillé en bonne et due forme par le représentant américain avec l'appui des puissances japonaises, britanniques et soviétiques. Dans le secret de la salle de négociation, le conseiller scientifique de Bush père fait capoter des semaines de négociations et sacrifie le climat sur l'autel de la croissance.
Et derrière les positions de principe, pas question de voir remise en cause la suprématie économique des États-Unis et de ses entreprises.
Exactement. Oubliez donc les promesses en matière de lutte contre le réchauffement climatique, les engagements en faveur de l'environnement. Il faut dire que cela fait des mois que les principales entreprises du pays mènent une campagne acharnée au sein d'une organisation intitulée, ironie de l'histoire, Coalition Globale du Climat. Une coalition créée de toutes pièces par l'Institut américain du pétrole, tout puissant lobby des énergies fossiles outre-Atlantique. Ce sont ainsi des millions de dollars qui sont dépensés pour mener de véritables campagnes de désinformation, acheter des scientifiques ou encore commander des contre-enquêtes favorables à leur cause. Les écoles ne sont pas non plus épargnés, où l'on commence à enseigner le doute et la remise en cause des évidences scientifiques.
Une action d'influence qui se poursuit en réalité tout au long des années 90.
Oui, avec en ligne de mire les accords de Rio en 1992 ou encore le protocole de Kyoto en 1997, autant de réunions de la dernière chance sabordées par les États-Unis et leur refus de s'engager dans une croisade contre leurs intérêts. Ce n'est qu'en 2002 que la coalition est dissoute après avoir durablement influencé des millions d'Américains et causé le retard irrémédiable dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui face au changement climatique. Mais si cette coalition a disparu il y a près de 20 ans, pas sûr que l'état des forces ait aujourd'hui vraiment changé, tant on perçoit l'incapacité de nos gouvernements à mettre en œuvre les politiques pour faire face aux grands dérèglements. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around and watching the world. People killing, people dying, people lying, people blind. People don't see the sign, watching money all the time. Get the pennies, get the dimes, get the dollars is the mind. State of the human race, people on a paper chase. The environment is fragile, and we've been on the gradual. Declining in a lifetime, I'll lose the battle. Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes. Cause Mother Nature signals, is trying to warn NATO. We got a new terror threat, it's called the weather. More deadlier than chemical and nuclear together. It's hotter in the winter, even hotter in the summer. Jesus or Buddha, somebody come and help. Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looking all around in the marginal world. Changing. Open up your eyes, you can see things rearranging. The world is dying. And if they say it's gonna be alright, then people are lying.
trapped behind the gates. Ignorance in a state of mind, cause they formulate a plan just to penetrate us. You see, they stimulate us with fear, manipulate us. Each year they dominate, dividing us like calculators. And we can't add it up, cause calculators do the math for us. And here they come chopping down the rainforest. Fucking up our air for us, they don't really care for us. And we can't complain, because the only one to blame is us. The gas is rising up, but we keep on filling up. CO2 levels got the whole planet heated up. It's blazing in the winter, even hotter in the summer. Muhammad, Jehovah, somebody come and help us out.
Lord, come down and help us out. Send us an angel, help us out. SOS, help us out. Looks like we ain't gonna.
SOS Mother Nature de Will.i.am. Merci beaucoup François Lévesque de nous avoir aidé à comprendre les rouages de la concurrence. Demain, on s'attaque aux grandes théories qui ont jalonné l'histoire de la concurrence. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
When an Eskimo gets bit by a mosquito, somebody in Miami will get swept by a tsunami. Rastas in Jamaica will get hit by a quake that registers something like 8.8. You see, a situation's happening with our planet, cause 20 years ago we took a